Louise, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu pourrais te présenter succinctement?
D'accord, alors j'ai 29 ans à l'heure actuelle. J'ai été expatriée donc au Vietnam de 99 à 2005, de la 5e à la terminale. Et je suis actuellement rédactrice web pour un site de divertissement après des études de communication et de journalisme. Je suis un peu passée par le théâtre aussi. Et bref, voilà où j'en suis aujourd'hui.
D'accord. Si je t'ai invité aujourd'hui, c'est aussi pour que tu nous parles précisément de ton expérience en tant qu'expatriée, mais une expatriée qui n'a pas fait le choix de partir puisque tu as dû suivre tes parents,
C'est
du
ça.
coup, au Vietnam. Est-ce que tu peux revenir sur les causes de ton départ? C'est-à-dire, voilà, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé
Alors, comment ça s'est passé? C'était plus l'histoire de mes parents, hein, donc je raconte un peu ma version. C'est qu'en fait, sans rentrer dans les détails, mon père avait quelques soucis d'argent en France et ça commençait à devenir compliqué. Et en fait, on a eu cette opportunité de partir. Alors, d'abord, ça devait se faire au Cambodge, puis ça s'est finalement décidé qu'on allait partir au Vietnam à Hanoï, dans la capitale. Mon père, qui est architecte, donc devait rejoindre une entreprise qui existait déjà à Hanoï. Et j'ai donc naturellement suivi mes parents puisque j'avais 11 ans et donc assez peu de libre arbitre à ce jeune âge.
Tu nous as dit que tu étais partie, donc tu étais en cinquième. Et comment ça s'est passé? Alors, une fois que tu arrives, parce que voilà, tu es avec tes amis au collège, etc. Et du jour au lendemain, si je peux dire, bah, tout change d'un seul coup. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé pour t'intégrer un petit peu dans cette nouvelle vie à Hanoï?
Alors déjà, j'ai eu un peu le temps de me préparer parce qu'on ne fait pas un voyage comme ça quand on change de vie radicalement. Donc on a eu quelques mois quand même pour voilà, s'organiser, déménager, tout ça. Effectivement, c'était assez douloureux pour moi parce que j'avais tous mes amis qui étaient à Paris, en sixième donc. Et pour quitter l'inconnu, voilà, moi je n'avais pas du tout une éducation d'expatrié. Donc je ne savais pas du tout dans quel pays j'allais, dans quel, enfin, quels amis j'allais avoir. Je ne savais pas du tout ça, comment ça allait se passer. Mon arrivée après à Hanoï, elle a été assez agréable parce que on arrivait dans des conditions matérielles qui étaient bien supérieures à celles qu'on avait en France, parce que c'était en 99, même si encore aujourd'hui vivre en Asie reste vraiment un luxe pour les Occidentaux. Voilà, il y avait ces avantages-là, on arrive dans une grande maison, ce qui change un peu la vie, voilà, il y a plein de choses qui sont formidables. Et après, je suis arrivée, donc j'ai fait ma rentrée en cinquième, comme tout le monde, hein, là-bas, dans un lycée français. Et ce qui était intéressant, ce que je savais pas avant d'arriver là-bas, c'est qu'on était assez peu nombreux, hein. Finalement, on n'est pas tant de Français expatriés là-bas. Et le lycée français dans lequel j'étais, il y a quand même un lycée français à Hanoï, il est composé principalement de Vietnamiens et de Français, et aussi voilà, d'une partie d'étrangers en tout genre, qui viennent soit d'Asie, soit d'autres pays occidentaux. Et on n'est qu'une seule classe par niveau, donc on est assez peu d'élèves, et c'est assez difficile finalement de rencontrer beaucoup de monde quand on arrive, parce qu'on n'a qu'une classe de 20 élèves,
D'accord.
et si on n'est pas... Voilà, il faut être ami avec ceux-là, parce que quand on arrive en cinquième, on a encore du mal à être ami avec les plus grands, ou encore moins les plus jeunes. Donc forcément, c'est un petit peu compliqué de s'adapter, surtout quand on est dans une classe où sur 20 élèves, il y a 15 Vietnamiens, qui sont pas forcément ouverts à la discussion et à une amitié potentielle avec une petite Française. Voilà, ça pouvait être un peu compliqué au début quand je suis arrivée là-bas.
Et pourquoi exactement, qu'est-ce qui pouvait mettre un frein un petit peu à une future amitié quand tu dis que ton arrivée avec les Vietnamiens dans cette classe-là a été compliquée? Est-ce que tu
Bah, il
peux...
faut savoir, c'est-à-dire que quand on est arrivé en 99, c'était encore un petit peu, il y avait un peu de tension entre les Vietnamiens et les étrangers. Qui se dissipe avec le temps parce que les Vietnamiens eux-mêmes sont pas mal partis à l'étranger, les Viet Kieu notamment, c'est ceux qui sont nés en France, qui sont Vietnamiens d'origine, mais nés en France, et qui reviennent après au pays pour monter un business, etc. Donc tout ça évolue énormément, mais en 99 c'était encore un petit peu compliqué, et en fait le fait d'être français n'était pas forcément un atout pour devenir ami avec un Vietnamien, et les Vietnamiens sont restés vraiment entre eux, sachant que dans le lycée français où on était, c'était compliqué parce qu'ils n'avaient pas le droit de parler français là-bas, et évidemment quand on n'a pas... Enfin, pardon, je rectifie. Dans le lycée français où on était, ils n'avaient pas le droit de parler vietnamien, leur langue maternelle évidemment, parce qu'on les forçait à parler français, voilà, pour qu'ils soient aussi bilingue que français, puisque nous on est français, voilà. Phrase un peu bizarre.
C'est
Non,
vrai.
et du coup, voilà. C'est que les Vietnamiens est resté énormément entre eux et que quand je suis arrivée, enfin j'ai eu un cas particulier après, hein, peut-être que c'était pas comme ça pour tout le monde. Moi je me rappelle, j'avais une amie, enfin une amie, j'avais une Vietnamienne avec qui je m'entendais bien, qui m'avait dit clairement qu'elle n'avait pas vraiment le droit, la possibilité de rester avec moi parce que sinon ses autres potes vietnamiens allaient en gros lui foutre la honte quoi. D'accord. Et donc c'était un peu dur. Moi j'avais 12 ans, je venais d'un lycée, enfin d'un collège à Paris où il y avait finalement plein de nationalités et j'étais pas, c'était les autres qui subissaient le racisme, c'était pas moi, et là c'était un peu l'inverse, donc c'était intéressant à vivre au moins pour une fois dans sa vie. Et voilà, donc je pense que la culture vietnamienne est assez complexe en fait, c'est difficile de s'y adapter, surtout quand on arrive vraiment dans un cadre expatrié où finalement on reste dans une bulle très expatriée, encore plus à l'époque en 99, et on a un peu de mal à se mêler avec la culture locale puisqu'on n'y est pas du tout amené et que les Vietnamiens eux-mêmes n'ont pas forcément envie de créer un contact amical, en tout cas qui dépasse le milieu professionnel ou scolaire.
D'accord. Et ça, est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti jusqu'à la fin, donc jusqu'au bac, puisque on y reviendra plus tard, mais tu as aussi passé le bac en Asie, du coup. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est amélioré avec le temps, ou est-ce que tu as toujours eu ce sentiment un peu quand même d'impossibilité de créer des relations durables avec les Vietnamiens et Vietnamiennes ?
Ce qui s'est amélioré avec le temps, c'est que à force de rester dans la même classe au bout de 6 ans, et on reste vraiment dans la même classe, donc on reste les 20 mêmes personnes ensemble pendant 6 ans. Après, il y a quelques changements, il y a des nouveaux arrivants, il y en a quelques-uns qui partent, mais c'est des étrangers, hein, donc c'est des Français ou d'autres personnes. Mais c'est pas les Vietnamiens qui, eux, sont restés vraiment sur toute ma scolarité au Vietnam. Et donc forcément, il y a plus d'intimité, voilà, on se connaît mieux et on apprend à s'apprécier, évidemment. Mais de là à avoir des rapports vraiment amicaux, c'était compliqué parce que, encore une fois, on n'est pas dans la même éducation du tout. Nous, on n'a pas, en tant qu'Occidentaux, on n'a vraiment pas du tout le même rapport à l'école et à l'autorité, par exemple. Et on s'en fichait un peu, par exemple, d'avoir des sales notes, ce genre de choses, ce qui est totalement impossible pour un élève vietnamien pour qui les parents peuvent parfois se ruiner pour payer un lycée français. Donc c'est normal, c'est pas du tout la même pression. Nous, on est au Vietnam, on va dans un lycée français parce qu'on n'a pas le choix, c'est normal. Et a priori, on a les moyens de se le payer. Parce qu'il faut savoir que le lycée français coûte, à l'époque, coûtait, je crois, 6 000 $ par an. Je sais pas quel prix ça coûte aujourd'hui, là, je parle d'il y a un petit paquet d'années maintenant. Mais voilà, ça représente en tout cas un coût important qui est très très important pour les Vietnamiens, beaucoup plus encore. Donc la pression n'est pas la même et forcément, ça change le rapport aux choses et il n'y a pas du tout le même rapport à l'illicite qu'on peut avoir à l'adolescence quand on est vietnamien et non vietnamien. Et ça pouvait créer un obstacle d'amitié parce qu'on ne faisait pas les mêmes choses, on n'avait pas les mêmes loisirs, on n'avait pas les mêmes envies, voilà. Et tout ça change un petit peu et empêche parfois une amitié possible.
Ton cercle amical là-bas, pendant ces années, c'était principalement, du coup, donc soit des Français, soit des gens qui n'étaient pas vietnamiens ou vietnamiennes.
Oui, c'est à peu près ça. Ça se composait assez comme ça. Après, c'était un cercle qui était très évolutif parce qu'encore une fois, il était composé de gens qui restaient parfois 1 an, 2 ans, d'autres qui arrivaient, d'autres qui partaient. Il y a des années où forcément, bah, on a moins d'amis que d'autres parce que bah, c'est un mauvais cru. Ça peut arriver. Puis après, l'intérêt aussi de cette expérience, c'est que très vite, en grandissant, par exemple au lycée, bah, on devient amis avec moi j'étais en seconde, j'étais très amie avec des gens en première et en terminale, parce qu'on est des si petits groupes que finalement, on se fiche un peu de l'âge, puisqu'on se retrouve dans les mêmes lieux, on fait à peu près les mêmes choses, et on a envie de vivre un peu les mêmes choses. Donc au moins, ça décloisonne un petit peu chaque classe, et ça c'est plutôt agréable.
D'accord. Là on va parler de quelque chose de totalement extrascolaire. Comment ça se passait au quotidien? Qu'est-ce que tu faisais comme type de sortie?
Déjà, ça a pas mal évolué entre mon arrivée et puis mon départ, parce qu'effectivement, 6 ans se sont écoulés. Au début, déjà, j'ai pas mal voyagé là-bas avec mes parents. On a beaucoup fait de voyages en moto, où on louait des motos et on allait se balader un petit peu dans le nord du Vietnam, à Sapa, à Mai Chau. On a fait un peu le sud aussi, on a fait les campagnes, voilà. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi, parce que c'est ce qui m'a permis vraiment de découvrir le Vietnam, tous ces paysages. Voilà, et de pas passer par un circuit touristique, parce que pour le coup, mes parents avaient plus d'amis, en tout cas plus de connaissances vietnamiennes, voilà, et que à force de fréquenter d'autres amis, couples vietnamiens, on a réussi à aller dans des lieux où on serait pas forcément allé au départ. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Après, ça a évolué dans le sens où, bah, évidemment, à l'adolescence, je suis moins partie en voyage avec mes parents, mais plus avec mes copains. Donc forcément, on n'allait pas dans les mêmes endroits. Ce que je retiens, moi, d'une semaine type, et je vais plus parler de l'adolescence, vraiment de la fin, on va dire, première terminale, c'était une liberté totale, et du coup, qui peut parfois être un peu, comment dire, qui peut être néfaste, parce que on perd un petit peu le sens des choses, la réalité de ce qu'on peut faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire, puisque au Vietnam, en tant que jeune expatrié occidental, on peut tout faire. Ce qui peut être compliqué, parce qu'on ne fait pas forcément les bonnes choses quand on peut tout faire. C'est-à-dire qu'on peut fumer de la drogue, on peut boire des coups, voilà, personne ne va venir vérifier quel âge on a. Évidemment, je ne parle même pas d'acheter des cigarettes et tout, ça c'est une évidence. Après, on peut faire des soirées incroyables, parce que ça ne coûte rien du tout, et ça devient tout de suite des soirées gargantuesques, voilà, qui ne sont pas du tout en accord avec la culture locale. En fin de compte, et ça, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est ado et qu'on a juste envie de faire des soirées, de déconner et de rencontrer des gens avec qui on va bien s'entendre et qu'on n'est pas forcément dans une totale adéquation avec la culture locale puisqu'on se dit, bon, bah écoute, ils n'ont pas envie d'être potes avec nous, tant pis, nous, on va rester dans notre bulle et voilà, on va vivre un peu comme ça. Et j'en ai pas des mauvais souvenirs hein, parce que c'était formidable. C'est juste après, le retour en France est un peu décalé et permet pas forcément de comprendre certaines choses qui nous arrivent quand on débarque à Paris et qu'on a vécu 6 ans au Vietnam avant, parce qu'on est en décalage, quoi.
Mais ça, on y reviendra, effectivement, pour rester encore un petit peu sur place avant le retour. Au niveau de la langue, alors une fois que tu es arrivé là-bas, est-ce que tu as pris des cours en vietnamien ou est-ce que comment ça s'est passé un petit
peu ? Alors oui, j'ai pris des cours de vietnamien. Je crois que c'était la première année où je suis arrivée. J'avais vraiment un vrai professeur de vietnamien qui venait une fois par semaine chez moi, qui m'a donné pas mal de bases quand même en vietnamien parce que c'était un vrai cours sérieux avec. Même s'il n'y a pas vraiment de grammaire en vietnamien, en tout cas, qui m'a appris pas mal de vocabulaire, des choses comme ça, et j'avais des exercices, c'était un vrai truc très scolaire, qui était intéressant, et puis après, bêtement, j'ai plus envie de continuer, j'avais pas vraiment de raison, j'aurais dû continuer, d'ailleurs, c'était un peu idiot. Ce que je regrette, alors, j'ai une bonne base de vietnamien, que je comprends un peu, et que j'arrive un peu à parler, voilà, que si j'y retourne, je peux me débrouiller, en tout cas, en campagne, un petit peu sur des bases. Donc ça, c'est quand même bien, au moins, j'ai toujours cet héritage-là. Ce que je regrette personnellement, c'est que on était dans un lycée français certes, mais on était quand même dans un lycée dont les élèves étaient majoritairement vietnamiens quand même, on va dire c'était 50 entre 50 et 60% à peu près. Et je regrette qu'on n'ait pas eu par exemple au moins une heure de vietnamien par semaine imposée de toute façon, qui aurait pu être largement intégrée dans notre parcours scolaire. Au même titre qu'une heure d'histoire, voilà, n'importe quoi. Et même si c'était pas forcément dans le programme scolaire français habituel qu'on est censé recevoir là-bas, comme au même titre que n'importe quelle école en France, mais je regrette qu'on ait pas eu voilà, cet apport-là qui aurait été un moyen d'intégration aussi, de montrer aussi aux Vietnamiens qu'on n'est pas là juste pour squatter chez eux et prendre du fric et utiliser leurs ressources, mais qu'on est aussi là pour apprendre le vietnamien, qu'on est là pour apprendre la culture vietnamienne et que ça peut commencer dans ce cas-là à l'école. Et ça, puisque les amitiés n'étaient pas forcément simples, l'école, au moins, elle aurait pu créer ce lien social-là, qui peut-être existe aujourd'hui, encore une fois. En 99 et jusqu'à 2005, ça n'existait pas. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ça a changé et ce serait une bonne chose. Mais je pense qu'il manquait, en tout cas, il manquait quelque chose qui forçait un peu la compréhension culturelle et l'intégration de la langue.
Et est-ce que c'était également le cas de tes autres amis français ?
Tout le monde. Enfin, en fait, après, il ne faut pas être hypocrite. On aurait tous pu apprendre la langue. Hein. Il suffisait juste de se motiver et que vraiment... Moi, j'avais des cours de vietnamien et j'ai juste choisi de ne pas les continuer. Hein. Donc, je ne vais pas non plus mettre la faute sur mon lycée qui était quand même pas de mauvaise qualité non plus. Mais après, on apprenait le vietnamien des rues. C'est-à-dire qu'on sortait en soirée, on rencontrait des vietnamiens, on discutait un peu avec eux. On discutait avec des gens au Bia Hoi. Donc les Bia Hoi, c'est les petits cafés locaux qu'on trouve dans la rue à Hanoï. Enfin, Hanoï, au Vietnam d'ailleurs. Et on apprenait le vietnamien comme ça, en fait, en parlant avec les gens qu'on voyait tous les jours, en apprenant les expressions, des trucs comme ça. Et ça, c'était super sympa. C'était un vietnamien qui était vraiment local, pour le coup, et qui était hyper enrichissant. Mais je pense que les autres ont vécu à peu près le même genre d'expérience que moi, en tout cas mes amis, où ils ont pareil un petit bagage de vietnamien, où s'ils y retournent, ils peuvent baragouiner un petit peu sans être bilingues, clairement pas. Mais on a tous, déjà on était tous à un jeune âge là-bas, ce qui nous a permis de choper l'accent sans problème, sans avoir le côté ridicule des adultes qui n'arrivent jamais à prendre les accents des autres langues, parce que c'est plus compliqué. Et voilà, mais je pense que pour le coup, mon expérience linguistique, elle est assez similaire des autres, de mes amis en tout cas.
D'accord, parce que du coup, personne n'est resté au Vietnam.
Alors, il y a eu des cas très différents. Si, j'ai un ami qui est resté au Vietnam. Alors, il n'est pas resté au Vietnam, il est rentré en Belgique et il a dû repartir au Vietnam parce qu'en fait, sa copine était enceinte de lui. Donc, il est retourné au Vietnam s'occuper de son enfant. Voilà, ce qui fait qu'il a fait ses études là-bas et que maintenant, il travaille au Vietnam. Bon, finalement, c'est un mal pour un bien ou un bien pour un mal, je ne sais pas. Mais bon, bref, il fait sa vie là-bas, il construit sa vie là-bas. Sinon, non, majoritairement, tous les gens que je connais, en tout cas les non-vietnamiens, sont tous partis après le bac. Parce que le système universitaire à Hanoï, en tout cas, n'est pas forcément excellent. En tout cas, par rapport à d'autres écoles en Europe, c'est pas, absolument pas comparable. Donc, pour n'importe quelle personne qui veut s'offrir une carrière ou quelque chose, en tout cas qui a des desiderata d'études, c'est pas au Vietnam qu'il va forcément trouver chaussures à son pied, d'autant plus que les cours sont principalement en vietnamien. Après, il y a des universités étrangères maintenant, je crois, une université australienne, mais bon, ça, je pourrais moins en parler. J'ai assez peu de personnes qui ont vécu cette expérience, qui sont restées là-bas, en tout cas.
D'accord. Et alors, est-ce que tu as comme ça en tête des moments vraiment là-bas que tu gardes comme étant très forts, des idées qui te viennent, voilà, des moments forts. C'est... Très bien.
J'ai tout blanc. Oui, bien sûr, bah, j'ai plein de souvenirs. De toute façon, je suis évidemment bercée de souvenirs du Vietnam. J'en parle tout le temps parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. Évidemment, entre les paysages que j'ai vus et les expériences que j'ai vécues là-bas, évidemment, je suis de toute façon construite sur cette expérience d'expatriation. C'est fondamental pour moi. Après, dans les souvenirs, j'en ai beaucoup. J'ai un souvenir qui m'avait particulièrement marqué, c'était une fois avec ma mère. On était allés avec ma mère et une amie qui était venue me rendre visite là-bas. On était allé un soir dans une pagode et il faisait nuit, voilà, et tu devais être, je sais pas, il devait être minuit, on avait même pas 15 ans quoi. Et on était avec ma mère et ma pote et on allait se coucher en fait dans une pagode qui était à ciel ouvert. Il y avait des chats qui traînaient et tout, donc on aimait bien, voilà, et on s'est vu avec une couette et en fait on s'est endormi là-bas, c'était en plein été, truc totalement improbable quoi. Et ce qui était marrant, c'est que le lendemain matin, les bonzes nous ont réveillés, mais ils étaient super contents qu'on soit là, ils nous ont pas du tout mis dehors et tout, ils étaient là, ils ont offert le thé après et tout, c'était super sympa. Et ça, c'est des expériences extraordinaires parce que j'adore j'ai quand même adoré le Vietnam, et j'ai eu des rencontres formidables avec des Vietnamiens qui étaient géniaux. J'avais quelque chose qui m'a vraiment marqué aussi, c'est qu'on avait, faut savoir, quand on est arrivé au Vietnam, donc il y avait un peu de tension avec les expatriés, par exemple, ce qui pouvait sembler un peu étrange, il fallait, ce qu'on entendait dire en tout cas, c'est qu'il fallait avoir un gardien chez soi. Je sais, en réalité, il n'y avait pas vraiment d'utilité à avoir un gardien parce qu'il n'y a pas de vol, il y a très peu de délinquance au Vietnam, donc on n'est pas du tout exposé à un risque ou quoi que ce soit. Mais le fait d'avoir un gardien, c'est un peu comme un engagement qu'on tient en tant qu'expatrié pour faire vivre aussi vivre l'économie locale aussi. Donc voilà, le fait d'avoir un gardien nous met de côté tous les désagréments éventuels qu'on pourrait avoir. Bon. Et donc du coup, on avait un gardien, Kwong, qui était extraordinaire, qui était un monsieur qui devait avoir 70 ans. On lui avait aménagé une chambre et tout à côté de l'entrée, donc il avait vraiment, il avait son appart et tout, et en fait, très franchement, il venait juste le soir dormir là-bas, donc ça servait vraiment à rien, mais bon, mais il était super cool, et il parlait, il essayait d'apprendre le français et tout, et en fait, on avait plein de soirées qu'on s'est fait tous les deux, où il m'apprenait le vietnamien, moi je lui apprenais le français et tout, il m'apprenait à dessiner, enfin voilà, on s'est fait des trucs comme ça, c'était super cool, on l'appelait le gardien des lumières, ce qui était assez joli. Et ça, c'est un souvenir très, très fort que j'ai eu avec lui, parce que c'était quelqu'un que j'adorais vraiment, c'était un papy, quoi, un papy de maison. Et c'était assez chouette.
Maintenant que t'es ici depuis quand même quelques années, on va aussi y revenir, mais est-ce qu'il y a des choses qui te manquent du Vietnam ?
Le Vietnam, déjà. Ouais. Après, ce qui me manque... L'expatriation me manque pas en soi, parce que je suis pas... Je pense que ça peut être une expérience aussi enrichissante que... c'est quoi le mot que pas enrichissante, enfin, bref, tu trouveras le mot et tu le colleras à la place. Tu feras un doublage. Ça peut être une expérience aussi enrichissante que douloureuse et que néfaste, parce que en fait, s'habituer à vivre trop longtemps dans des conditions mirifiques que propose le Vietnam, c'est aussi perdre de vue les choses de la vie, en fait, ce que coûte la vie vraiment. Le fait que quand on rentre en France, après on sait plus comment ça se passe, enfin, on commande des taxis, on pense que c'est normal, en fait ça coûte 8 fois trop cher, donc c'est pas possible. Et voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont un peu troublantes. Mais moi, le Vietnam me manque surtout pour parce que j'aimais bien voyager là-bas, et après quand j'ai l'occasion, j'essaye d'y retourner. J'aime bien voyager dans d'autres pays aussi, donc j'y vais pas tout le temps. Mais Ouais, je sais pas ce qui. Enfin, vraiment, c'est enfin, le pays me manque parce qu'il évolue super vite. Et ce qui me manque, je dois dire, c'est que quand j'y suis retournée, par exemple, il y a quelques années, ça faisait 5 ans que j'y avais pas été. Et que ça a évolué, le Vietnam évolue beaucoup plus vite que n'importe quel pays. Enfin, c'est normal, c'est un pays en voie de développement, donc naturellement, il évolue super vite. Et 5 ans d'absence au Vietnam, c'est comme si on n'avait pas vu Paris pendant 50 ans, je pense. Ça évolue de la même façon, de la même vitesse. C'est-à-dire que vraiment, on va voir une forêt d'immeubles, des gratte-ciels qui se sera imposée en l'espace de 5 ans. Il y aura des banques partout, voilà, tout ça a changé. Et voilà, ce qui me manque, c'est aussi le Vietnam de mon adolescence, que je ne retrouverai pas forcément, puisqu'il n'existe plus. Et c'est pas grave, c'est normal, heureusement, il évolue, et il y a plein de choses qui évoluent là-bas et tout, mais c'est, voilà, j'ai une petite nostalgie d'un Vietnam que, voilà, que j'ai gardé, que j'ai un peu fantasmé peut-être, que j'ai gardé en tête.
D'accord. Quand tu étais là-bas, tu revenais quand même assez régulièrement en France.
On rentrait une fois par an l'été en fait. Mon père avait 3 semaines de vacances, donc il rentrait 3 semaines. Moi généralement je restais un peu plus le temps des vacances scolaires où on allait voir la famille quoi. Mais on a fait comme ça tous les étés. On n'est jamais rentré à d'autres moments parce que ça coûte cher au bout d'un moment de. Et on n'était que trois en plus, il y avait juste moi et mes parents. Mais ça coûte quand même cher de faire plus d'un voyage, plus d'un aller-retour par an si on commence à être voilà, beaucoup. Et non, à chaque fois, enfin, ça se passait comme ça en fait. J'allais voir mes amis, j'allais en vacances chez mes amis l'été, ou ça arrivait que mes amis viennent au Vietnam aussi au mois de juillet, et voilà, qui découvrent un peu le pays. Donc pour le coup, j'ai vraiment gardé des amitiés très proches en France qui sont venues après au Vietnam, avec qui voilà, je suis toujours restée très amie. C'était les débuts d'Internet, mais en fait, on s'envoyait pas des mails à l'époque, c'était pas encore une monnaie courante et encore moins de réseaux sociaux et pas Facebook. Donc pour garder contact, c'était plus compliqué. On passait par fax, par lettre, et quand on envoyait une lettre, il fallait attendre 2 mois avant qu'elle arrive. C'était vraiment à l'ancienne, quoi. Et voilà, mais principalement c'était ça, on faisait du fax. Alors j'ai vraiment vachement utilisé le fax, parce qu'il y a beaucoup plus que la plupart de mes amis qui ont pas vécu à l'étranger. Et après un peu de téléphone, mais ça coûtait très cher, donc c'était moins possible d'utiliser ce mode de communication, quoi.
D'accord. Donc maintenant, on va aborder un petit peu le retour. Bon, tu passes le bac en Asie. D'ailleurs, tu pourrais éventuellement revenir un petit peu dessus,
avec plaisir.
Au départ. Et comment ensuite, après ce bac, comment voilà, s'est passé ton retour en France?
Alors déjà, j'ai passé une très bonne année de terminale où j'avais vraiment pour le coup pas mal d'amis et tout. Et c'était une super année. Et le bac, ça mérite d'être raconté puisque c'était une expérience absolument incroyable, totalement unique. Bon, en fait, comme on est évidemment qu'on n'est pas assez d'élèves au lycée français de Hanoï, ils font pas venir des examinateurs de France juste pour 20 élèves. C'est pas possible, ça coûte beaucoup trop cher. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils réunissent tous les lycées français d'Asie orientale dans un point, le centre, donc c'est à Bangkok. Et dans ces cas-là, on se retrouve tous dans le même hôtel. Donc il faut imaginer qu'on est environ 200, 250 élèves avec tous la même expérience, mais dans des pays différents. Donc c'est incroyable comme on est heureux de se rencontrer parce qu'on est là avec des expériences différentes, mais en même temps très similaires sur plein de choses. Et on a les épreuves du bac qui sont vraiment concentrées sur une semaine. C'est pas comme en France, hein, clairement. Et on a nos résultats 3 jours après et on sait très vite si on rentre au Vietnam ou si on doit rester parce qu'on a des épreuves de rattrapage, etc. Donc en gros, en 2 semaines maximum, c'est plié, quoi. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, bon, alors, tout ça est à notre charge, hein, faut savoir que ça représente un coût. Que les expatriés sont quand même relativement privilégiés financièrement, donc ils peuvent se le permettre, mais il faut quand même savoir que ça représente un coût, c'est-à-dire qu'on paye le voyage pour aller en Thaïlande, on paye l'hôtel, voilà, on paye les épreuves aussi, enfin je sais plus combien ça coûtait, mais tout ça a représenté quand même.
Vous payez les épreuves?
Non, on paye pas les épreuves, on paye juste l'inscription en fait, tout ça a représenté. Vraiment, je pourrais pas dire combien ça coûtait, mais en tout cas, ça représentait un coût global, relativement important quand même, même pour une seule personne. Mais en revanche, c'est une expérience incroyable parce que j'ai pas du tout eu l'impression, moi, de passer mes épreuves de bac. J'ai vraiment passé 2 semaines de soirées, de rencontres géniales avec plein plein de gens. Et ça, c'était formidable. Alors, il faut savoir aussi, je le précise, parce que moi, j'étais en L au lycée. Et en L, bah, il n'y a pas beaucoup de monde. Ils ont carrément créé la section juste pour moi et une autre personne. Les grosses relous, quoi. Et du coup, en première et terminale, on était 2 en cours, en fait. Donc, la majorité de nos cours étaient seulement à 2 élèves. On avait des cours en commun avec le reste de la classe. Mais dans ces conditions-là, forcément, bah, on termine le programme scolaire 6 mois avant la fin de l'année. Ce qui est quand même vachement pratique. Donc, en fait, grosso modo, on arrive au bac. On a fait 8 bacs avant de faire le vrai. Donc, on est quand même très, très préparé et pas très stressé par les épreuves, quoi. Ça va, on nous la fait pas, quoi. En gros, on s'y connaît bien. Donc ça, c'était quand même une expérience qui était assez rigolote et qui me marque, qui fait partie de mes souvenirs précieux de mon expatriation. Après, le retour, c'était un peu... bah, évidemment, on tombe de haut, parce que moi, en plus, je suis rentrée en France toute seule. Mes parents restaient au Vietnam. Et je suis passée d'une maison de 300 mètres carrés à un 10 mètres carrés dans Paris, qui devait coûter peut-être le même prix que la maison. Donc forcément, c'était un peu... c'était un petit peu difficile. Et puis, je trouve que je rentrais en France pour faire une école de théâtre, parce que je voulais faire du théâtre à l'époque. Et effectivement, on passe un peu... j'avais 17 ans quand je suis arrivée à Paris, et on passe un petit peu... d'une expérience tellement incroyable, on se sent vachement privilégié d'avoir vécu des choses que les autres connaissent pas et comprennent pas forcément, parce que quand on a 17-18 ans, bah voilà, on sait pas forcément de quoi on parle quand on parle du Vietnam, quand on parle d'autres choses, ce qu'on a pu vivre là-bas. Et donc j'étais assez en décalage et un peu agressive, j'étais un peu trop exigeante avec les gens, et je pense que je prenais un peu les autres de haut en me disant, attends, ils ont rien vécu, les débiles, je me suis vraiment meilleure que tout le monde, quoi. Évidemment, ça dure pas non plus des années, parce qu'on essaie de pas être trop con quand même non plus, qu'on évolue et qu'on grandit, et on se rend compte qu'en fait l'expérience peut être partagée, racontée, et qu'il faut pas juger les gens parce qu'ils ont pas vécu la même expérience, ils en ont sûrement une autre qui est tout aussi intéressante. Mais je sais que j'ai vécu au moins une bonne année un peu difficile de retour, où j'étais toute seule, sans mes parents, à devoir essayer de reformer un cercle amical que je n'avais plus, du coup, puisque tous mes amis au Vietnam sont partis, mais dans des pays différents, parce qu'il y en avait très peu qui étaient français, en fin de compte. Et du coup, j'ai pas retrouvé mes amis du Vietnam à Paris. Donc je me suis retrouvée à Paris un peu en solo, pas comme quand on passe son bac et après le lycée, et qu'on reste quand même avec tous ses potes, voilà, tout va bien. Donc voilà, ça c'était un petit peu la difficulté à mon retour. On n'a qu'une envie, en fait, c'est de se rebarrer au Vietnam et retourner avec tous ses potes là-bas, ce qui n'est pas forcément possible, évidemment. Et voilà.
Ensuite, tu es retournée combien de fois, du coup, au Vietnam, depuis ton vrai retour
Je suis retournée, que je dise pas de bêtises, je suis retournée une fois voir mes parents. Après, il y a eu des problèmes avec mes parents, ce qui fait qu'eux-mêmes sont partis du Vietnam. Et j'y suis retournée une fois 5 ans après, et ça, c'était la dernière fois. J'y suis retournée avec mon copain 3 semaines, et ça fait 5 ans que j'y avais pas été, mais j'y allais pas pour voir mes parents, pour le coup, qui n'étaient plus là-bas. Et donc du coup, finalement, je suis pas retournée très régulièrement, en fin de compte, parce que mes parents rentraient plus souvent en France aussi, une fois que je suis rentrée en France. Et bon, voilà, fallait faire un choix, soit y rentrer en France, soit je venais au Vietnam, mais on pouvait pas faire non plus les deux à chaque fois, ça marchait pas.
Et est-ce que toi, tu te verrais revivre là-bas ou pas?
Revivre là-bas, bah, c'est-à-dire que oui, je pourrais y retourner. Si j'y allais pour quelques mois, un an, oui, je pourrais y trouver un intérêt. Enfin, évidemment, l'intérêt est indéniable, parce que je serais forcément ravie de retourner là-bas quelques temps. Sous réserve d'avoir évidemment un travail qui me conviendrait aussi, hein. C'est pas forcément gagné, faut quand même trouver du travail quand on est expat dans un pays dont on ne parle pas la langue couramment non plus. C'est quand même, ça peut être compliqué. Après, j'y retournerai pas plus que ça, pas plus longtemps que ça. Mais ça, c'est le Vietnam comme n'importe quel autre pays. Je suis pas contre une expatriation. Je pense que j'ai pas envie de vivre une expatriation plus qu'au-delà de 2 ans, 3 ans maximum. Parce que je pense que ça peut déraciner énormément et ça peut avoir des conséquences sur plein de choses, en fait. Et moi, je suis assez attachée à l'idée d'avoir vraiment mon socle de vie qui est basé en France, en l'occurrence à Paris, ça pourrait être autre part, mais en France principalement. Et je peux avoir des sauts de puce, des envies de sauts de puce comme ça sur quelques années, si c'est possible professionnellement, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, bien sûr. Donc déjà, je parle de choses, quelque chose qui n'est pas du tout prévu. Mais je suis pas attirée par l'idée d'aller vivre 10 ans quelque part, et puis, ou alors vivre 3 ans dans plein de pays, parce que je sais que c'est... Enfin, pour avoir vécu des amis qui ont vécu ça aussi, je sais que ça crée beaucoup de déconnexions avec plein de choses, avec la réalité, avec les rencontres. Socialement, ça pose vachement de problèmes, parce que certes, on a plein d'amis, et en même temps, on a que des amis qu'on voit pas, ce qui quand même est compliqué au bout d'un certain temps. Et j'ai pas envie de vivre ça. C'est pas, ça m'intéresse pas plus que ça.
D'accord. Est-ce que t'as des choses à rajouter, enfin voilà, sur lesquelles t'aimerais revenir, ou est-ce que...
Ouais, tu suces.
Voilà, merci Louise.
Qu'est-ce que je voudrais rajouter? Attends, je réfléchis, ce que je pourrais rajouter. Donc j'ai eu une expérience formidable de l'expatriation, même si elle était douloureuse parce qu'elle n'a pas été choisie et que j'étais triste de quitter mon environnement social que je n'avais plus au Vietnam. J'en ai vachement voulu à mes parents les premières années parce que c'était de leur faute. Je partais du principe que c'était eux qui nous avaient mis dans cette situation-là et que je l'avais pas décidé, etc., etc. Et moi, je voulais rentrer en France et tout. Enfin bref, j'étais vachement en lutte contre mes parents à ce moment-là, jusqu'à ce que, évidemment, je me fasse des amis sur place. Et voilà, et comme tout le monde, une fois qu'on se fait des amis, on s'en fout, voilà, tout va bien, y a pas de souci. Mais je pense que l'expatriation, dans ces conditions-là, peut être très difficile. Après, on arrive forcément à trouver quelque chose. Voilà, il y a forcément un centre d'intérêt et une source d'enrichissement par rapport à ça. Mais il faut lâcher le morceau. À un moment, il faut accepter. Si on suit ses parents, je dis ça pour les jeunes qui nous écoutent, si vous suivez vos parents, ce qu'il faut, c'est lâcher du lest un peu et se dire, ok, ça va être difficile, je vais un peu en chier, ça va être gonflant, mais en fait, faut y aller à fond, faut apprendre la langue, faut s'ouvrir plus, et voilà, il faut le faire le plus tôt possible, parce que plus tôt ça arrive, et plus on s'adapte, plus on rencontre d'autres gens, et plus on est moins con en vieillissant, voilà.
Donc plus on est moins con en vieillissant, ce sera la phrase de fin. Merci beaucoup, Louise.
Je vous en prie. À vous les studios.